Alors, pour commencer ce panel, je donnerai la parole à Geneviève Courreau pour une quinzaine de minutes. La parole est à vous.
Merci. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Voilà, merci. Merci Christelle Lemoigne pour votre présentation. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous et je remercie vraiment vivement l'IFE et Liliane Alsfranche qui a fait appel à moi, ainsi que la fondation Gabrielle Péri. Je vous félicite pour avoir réuni autant de personnes impliquées dans la lutte en faveur des droits des femmes et de l'égalité, et surtout pour le thème que vous avez pensé international et à l'aune de l'Europe de la Méditerranée. Je remercie encore Hélène Bidard qui très gentiment a fait allusion à l'association ECVF élue contre les violences faites aux femmes, dont nous sommes membres, et je salue Michel Leloup qui, comme moi, est présidente d'honneur de cette association, qui réunit des élus appartenant à tout parti politique et qui travaille contre les violences faites aux femmes dans le cadre de leur mandat et même ensuite après en faisant de la formation auprès des élus, chose extrêmement importante, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Et puis, je suis quand même touchée d'être ici dans cet auditorium, alors que la maire et Anne Hidalgo, que j'ai connue il y a longtemps et dont nous avions salué ensemble le travail lorsqu'elle était élue aux droits des femmes. Et c'est quand même un exemple d'un parcours politique intéressant qu'une dame qui a été élue aux droits des femmes, adjointe du maire de Paris aux droits des femmes, en vienne à devenir la maire de cette ville. Et ça n'est pas n'importe quelle ville. Ça signifie que le chemin est ouvert pour beaucoup d'entre nous. Je ne parle pas pour moi, bien entendu, je vais dire donc beaucoup d'entre vous. Donc, je pense que c'est important que nous croisions nos regards, parce que le croisement des regards féministes, c'est aujourd'hui, dans un monde et une société qui ne cesse de se transformer, une nécessité, c'est une priorité. Je salue mes co-intervenantes et je veux dire d'entrée le plaisir extrême que j'ai à me trouver parmi vous, à la fois du fait de la diversité de nos origines géographiques et du fait de celle de nos âges. Et je pense que je suis la plus ancienne du panel ici. Ce qui me touche le plus, c'est le parcours que j'imagine être le vôtre, mesdames, et que je salue, vous qui venez de Syrie, du Liban, d'Espagne, d'Afghanistan dans cette salle. Et je trouve très émouvant et en même temps très costaud que nous nous retrouvions autour de cet axe fédérateur de la Méditerranée qui parle tant à la Marseillaise que je suis et... Permettez-moi cette confidence à l'arbatilla que je n'ai jamais cessé d'être. Donc, je vais commencer par quelque chose que j'avais mis d'abord en conclusion et vous allez comprendre pourquoi. Je vais commencer par vous proposer un petit retour aux sources et aux sources de notre histoire commune, de cette histoire de la Méditerranée. Vous allez me pardonner, vous savez, j'ai été professeure pendant 36 ans, effectivement, professeure devant une classe, bien qu'élue par ailleurs, et puis membre d'associations, etc. Et j'ai exercé 32 ans dans les quartiers nord de Marseille. Et je suis professeure de lettres classiques et donc de français, latin, grec. Et le grec m'a accompagnée depuis que j'ai 12 ans. Et dans des moments très difficiles de ma vie, pardonnez-moi cette confidence, ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée de penser les choses comme ça, sur une distance aussi longue, les choses de la philosophie, de la pensée et de la démocratie. Revenons donc à nos sources et vous allez voir qu'ensemble, nous avons parcouru du chemin, mais que nous partions de loin. Donc, comment cette culture grecque s'est-elle diffusée en Méditerranée et s'est-elle partagée au travers de tous? Eh bien, elle s'est diffusée grâce au roman grec, et le roman comme genre littéraire a vu le jour au 1er siècle après Jésus-Christ en Asie mineure. Il s'est diffusé au sein des provinces orientales hellénophones de l'Empire romain, formant une sorte de fond culturel commun. 5 romans en tout nous sont parvenus, ont été conservés, dont Caliroé de Chariton, Daphnis et Chloé de Longus, et ces romans développent un unique schéma narratif, toujours le même, suivant 3 étapes. 1. Formation d'un couple hétérosexuel en vue du mariage. 2. Exil forcé des amoureux. 3. Préparation à l'âge adulte et épreuves à caractère dramatique. Une place importante y est réservée à l'héroïne. Une jeune fille dont la chasteté est prise en otage par des brigands sans foi ni loi, qui est l'objet, lors de sa fuite, de tous les sévices. Viol, coups, blessures, tentatives de meurtre, dépeçage parfois. La violence exercée contre les femmes, notamment la violence sexuelle, est une constante des textes grecs. On peut dire, et c'est Sophie Lalanne qui est l'auteur de toute une thèse de 2006 qui s'intitule « Une éducation grecque, rite de passage et construction des genres dans le roman grec ancien » que je remercie pour ces indications que je vous propose de partager. Le corps des femmes est le lieu où se fabrique l'homme grec. Ces récits, bien plus que récits d'une éducation sentimentale, mettent en place et perpétuent par le biais d'un rite de passage un système social fondé sur la séparation entre les sexes, sur la différence des rôles sexués et sur la construction de la domination masculine qui fonde la cité grecque, dont nous pensons que c'est elle, à elle que nous devons la démocratie. Et c'est vrai que nous lui devons la démocratie. Mais cette démocratie, c'est le pouvoir et la puissance du peuple, le peuple étant exclusivement masculin. Car sans l'exclusion des femmes et sans l'éducation des garçons et des filles qui valident cette exclusion, il n'existe pas de cité grecque. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en introduction et j'en reviens maintenant au sujet précis de mon intervention. Avant toute chose, je vais parler de la place des femmes en politique, sujet sur lequel j'ai travaillé au sein du parti politique qui est le mien, le Parti socialiste, pendant de très nombreuses années. Et je vais essayer de vous dire comment je vois les choses aujourd'hui. J'ai moi-même été élue avant les lois dites sur la parité, presque par hasard, mais c'est une autre histoire. Disons-nous bien clairement que sans parité politique, il est difficile de prétendre mettre en avant dans nos agendas des politiques d'égalité femmes-hommes. Ça, c'est une chose que nous devons avoir très claire dans la tête. Je parle de la France, car c'est le sujet que je connais le mieux au travers de mon engagement féministe au sein de diverses associations et réseaux auxquels j'ai appartenu, sans compter une longue expérience professionnelle, des travaux effectués dans différentes instances, Conseil économique et social et sa commission égalité femmes-hommes, Observatoire de la parité, Observatoire des droits des femmes que vous avez cité, au Conseil à l'égalité. Alors, je me suis demandé... Qu'est-ce que je peux apporter à cette conférence au travers de ces expériences accumulées ? Et il me semble que c'est un regard traversant de l'histoire du féminisme et des droits des femmes en France, et limité à ce que je viens d'évoquer, bien entendu, puisque vous allez parler de ce qui se passe dans d'autres pays. Alors, quel constat vous proposez ? Je crois que tout ce que je vais dire est fondé sur la conviction que j'ai qu'il faut, Denise Brial l'a dit tout à l'heure, se rappeler et rappeler aux autres et enseigner aux jeunes ce que nous avons vécu, ces étapes que nous avons souvent tendance à oublier. Alors, je fais un petit rappel rapide de ce que nous avons traversé, positif d'un certain côté, négatif d'un autre. La question des femmes en politique en France commence en 1909. Elle commence en 1909 avec le congé de maternité accordé aux femmes, étape que bien souvent on a oubliée. Et puis rien du tout, plus rien jusqu'en 1944. On peut donc considérer que les droits des femmes en France, sur le plan de leur reconnaissance législative, ont 75 ans, ce qui est beaucoup et ce qui est peu. C'est exactement mon âge. Je me dis que nous, les féministes, femmes et hommes, tout de même, nous avons bien travaillé et pas mal avancé. Évoquons l'aspect législatif. Vous le connaissez. 68 et 75, ce sont les conquêtes du droit à la contraception, à l'avortement. 81, à partir de 81, ce sont les avancées sur l'égalité professionnelle que nous devons en grande partie à François Mitterrand et à sa première ministre, la première ministre en France des droits des femmes, qui est Yvette Roudy, qui produira pas moins de 7 lois. C'est une chose qu'on oublie souvent de comptabiliser. qui produira, comme l'a rappelé Claire Sercombe tout à fait justement tout à l'heure, le fameux rapport de situation comparée qui est un outil précieux dans les collectivités territoriales et dans toutes les entreprises et dont on a fait fi il y a 2 ans. Conquête de la parité, la conquête de la parité politique, on ne la retrouve qu'au tournant du 21e siècle, un peu comme la queue du peloton des revendications du 20e siècle. Avec la réforme constitutionnelle de 1999 et les lois dites sur la parité de 2000 et suivantes, largement plébiscitées par l'opinion publique. Une enquête publique de 2000 indiquait que 80% des Français souhaitaient voir les femmes jouer un rôle politique important en France. Et toute la classe politique était complètement en retard là-dessus. Tous les domaines, à la suite de ces lois, sont touchés par un effet rebond de ces lois sur la parité. Le monde de l'entreprise, celui des associations, celui de la fonction publique, qui bientôt doivent faire leur place aux femmes, aux postes de responsabilité. En même temps, on voit s'installer une culture de l'évaluation au travers de relevés et de bilans et une exigence de statistiques sexuées que l'on retrouve partout. Quand je suis arrivée au Conseil général des Bouches-du-Rhône pour piloter l'Observatoire des droits des femmes, on a travaillé sur le RSA, et à l'époque c'était le RSA. Et la première question que j'ai posée au secteur qui s'en occupait, c'est combien d'hommes, combien de femmes ? Personne ne savait, dans ce gros département, qui avait sans doute un des plus forts contingents de personnes qui touchaient le RSA, combien d'hommes et combien de femmes ? Et on m'a répondu, il n'y a pas de logiciel qui traitent ce sujet. Depuis, ils se sont rattrapés, bien entendu, mais c'est pour vous dire le retard qui avait été pris dans ce domaine, et ça n'est pas le seul Conseil général concerné. Donc, je veux dire que la mesure de la place des femmes et des hommes aux différents niveaux de pouvoir est extrêmement importante, et saluer ici le travail de la commission parité du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a été pilotée, cette commission a été pilotée de 2013 à 2019 par la politologue Réjeanne Sénac, qui a accompli un travail remarquable. Je vous en renvoie au rapport du Haut Conseil de toute façon dans tous les domaines, et sous la houlette de sa présidente remarquable, Danielle Bousquet. Ces bilans ont une grande importance. Ils sont repris par les médias, hélas, toujours assez peu intéressés par le sujet. Ce qu'ils aiment, c'est quand on se bagarre, que les femmes se battent contre les hommes, ils adorent. Mais ce travail de fourmi que nous pouvons effectuer pour donner aux femmes leur place jour après jour dans les partis politiques, puis dans les instances de gouvernement, puis ça, ils s'en fichent, ça ne les intéresse pas du tout. Vous comprenez, on ne peut pas réduire ça en une photo et 2 phrases, ce n'est pas possible. Je voudrais citer ici Romain Sabatier, l'ancien secrétaire général du Haut Conseil, qui était avec moi à Tunis en 2017 pour un colloque qui était organisé par l'Europe. Les médias ont une grande responsabilité en matière de parité. Il me semble que si, au lieu d'occulter les fameux élus, ils leur donnaient la place qu'elles méritent et qu'ils traitaient la parité comme un sujet politique et démocratique majeur et non comme un gadget, alors les jeunes filles et les femmes auraient davantage de modèles politiques auxquels s'identifier, les citoyens seraient plus éclairés sur ce débat et dépasseraient les stéréotypes encore prégnants, comme le répandu stéréotype sur l'incompétence supposée des femmes. N'oublions pas que toutes ces avancées n'auraient jamais existé sans la mobilisation du mouvement associatif féministe durant toutes ces années qui continue d'ailleurs de faire ce travail, et d'ajouter que ce mouvement, il a existé bien avant 1944. Donc, je ne saurais oublier non plus, et c'est la dernière des dates de ces avancées, je n'irai pas plus loin, la loi de renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel de 2016 que nous devons à Maud Olivier et à Catherine Coutel, et qui est une loi pour nous en France, pour nous féministes, extrêmement importante. Toutes ces avancées législatives, Yvette Roudy en dit très justement, tout ce que nous avons gagné, nous l'avons arraché avec les dents. Et c'est vrai. Et bien sûr qu'elles sont satisfaisantes. Pourtant, on ne saurait masquer les aspects pessimistes qui s'inscrivent en filigrane de ce constat. À partir de 2002, Et c'est sur le point que je vais aborder là maintenant. À partir de 2002, la parité devient certes obligée pour les partis politiques qui s'affichent en outre féministes, instaurant des instances nationales paritaires et qui, c'est vrai, une fois au pouvoir, s'engage à construire des gouvernements paritaires. Les gouvernements du quinquennat de François Hollande étaient paritaires. Ceux d'Emmanuel Macron, celui d'Emmanuel Macron, oui, ceux, je crois qu'il y en a eu plusieurs, le sont aussi. Pourra cependant se demander quelle part effective de pouvoir échoit au portefeuille tenu par des femmes. Je vais prendre pour exemple l'actuel secrétariat d'État aux droits des femmes, qui est certes rattaché au Premier ministre, mais qui n'est pas un ministère à part entière. Les anciennes ministres des droits des femmes le savent. Ce qui compte, c'est vous êtes tous les mercredis en réunion du gouvernement ou vous n'y êtes pas ? Si vous n'y êtes pas, vous n'avez pas de pouvoir. Combien ? Quel est votre budget ? Si vous n'avez pas de budget, si votre budget c'est peau de chagrin, vous ne comptez pas. Pourtant, malgré le discours affiché par les partis, malgré les lois, je vais dire quelque chose que vous savez toutes et tous, hein, il reste des pôles de résistance dans lesquels s'engouffrent les adversaires de l'égalité femmes-hommes. Partout où la loi n'est pas assez contraignante, et vous l'avez abordé déjà, les législatives, les sénatoriales, la question des EPCI, ce qu'on appelle les EPCI, c'est-à-dire les intercommunalités, il n'y a pas, là où il n'y a pas de parité, eh bien, là où il n'y a pas d'obligation, eh bien, il n'y a pas de parité. Je vous renvoie aux travaux de l'association Elles aussi, qui est une association extrêmement efficace, qui non seulement travaille sur des chiffres et sur de la recherche pointue, et on peut leur faire confiance, mais qui organise aussi partout en France des réunions d'élus dans des petits villages, dans des petites villes, où elles regroupent des élus de tous niveaux pour leur expliquer comment fonctionne la parité et comment elles doivent se bagarrer. C'est un vrai travail de terrain. Moi, j'adore ce type de travail. J'adore pas parce que pas par goût sentimental, mais parce que c'est là que ça commence. C'est comme ça que vous constituez votre réseau. Donc, bilan. La France est au 18e rang mondial en octobre 2017 pour la parité. Partout où il n'y a rien dans les textes de loi, eh bien, c'est la chasse gardée des mâles. Pour les parlementaires, on l'a dit, on est à 39,2% de députés, 31,3% de sénatrices. Pour les exécutifs, qu'est-ce qui se passe ? Les mairies, les départements et les régions, malgré un scrutin favorable de liste ou par binôme, donc on voit arriver en nombre équivalent des conseillères départementales, des élus municipales et des élus régionales. Qui pilote la région et le département ? Eh bien, 16% de femmes maires, 7,5% de présidentes d'intercommunalités, 10% de présidentes de département, 17% de présidentes de région. Point. Ça veut dire que 92% des intercommunalités, vous savez, les regroupements des communes, sont présidés par un homme. Donc, ne cherchez pas où se situe le pouvoir. Il est là où il y a les mecs. Là où ils sont, c'est là qu'est le pouvoir. Et ce qui leur reste aujourd'hui sur le territoire, ce sont les intercos. Et puis surtout, dès que la pression baisse, et là je pense à la société, les vieux démons reviennent, ils dépassent le cadre de la stricte politique et débordent, par exemple, sur la fonction publique. Pas plus tard qu'hier, je reçois un courrier du CNFPT. Le CNFPT, c'est un organisme très important qui est le Centre national de formation de la fonction publique territoriale, qui annonce glorieusement les entretiens territoriaux de Strasbourg qui se déroulent tous les ans, qui plusieurs jours, et qui ont pour vocation de former les cadres de nos collectivités. Programme ? Eh bien, le programme, c'est place à la diversité. Donc, nous, féministes, nous savons bien que la diversité, c'est là où nous nous perdons. C'est le puits sans fin où les droits des femmes disparaissent. Et donc, ils font un focus sur leurs intervenants. Ils affichent les noms de M. Thomas Cotinet, M. Pascal Demurger, M. Christophe Aubel. Ils mettent une photo où on voit trois hommes et une femme, pas un nom de femme. La diversité aux entretiens territoriaux de Strasbourg qui vont avoir lieu bientôt, Est-ce que c'est seulement une affaire de communication et d'image? On est là dans la réalité. On est là dans la vérité. La place des femmes devient de cet ordre-là. Car la parité et le féminisme devient un élément de langage, un parcours obligé. Parfois, on oublie, on élimine de ces textes le mot féminisme, le parti socialiste qui était féministe, ben maintenant il est écologiste. On le remplace, s'il est de bon ton, d'afficher l'écologie, c'est le moment. On met tout en œuvre pour détourner la notion sur laquelle on s'était mis d'accord. Et on va voir comment. Autre coïncidence historique, en 2000, pour la parité, en 2000, c'est aussi la date de la première enquête en VEF qui fait surgir scientifiquement les chiffres des violences et des morts, des violences faites aux femmes et des morts. Et Claire Sercombe en a tout à fait bien parlé, et Hélène Bidard également. Cette coïncidence est à la fois positive pour la parité, à laquelle elle apporte un argument de sa nécessaire installation, parce que les élus vont, UES vont être les mieux armés, parce qu'elles rencontrent les femmes victimes de violences dans leur permanence pour lutter contre ce fléau. Et puis c'est aussi négatif, parce que cela éclipse des revendications, les revendications paritaires qui bientôt intéresseront moins le politique que la question des violences. Alors qu'est-ce qu'on nous dit à ce moment-là? Vous le savez, les adversaires de la parité sont experts dans l'art de renvoyer les femmes à la raison et à leurs devoirs. Plutôt que de chercher à mettre en place la parité, vous feriez mieux de vous occuper des violences. Toutes, on a entendu ça. Quand même, tout à l'heure, une petite incise. C'était rigolo. Quand je suis arrivée ici, il y avait un monsieur de la sécurité qui m'a demandé, avec un petit sourire, si j'allais à la conférence pour les droits des femmes. Et puis, il me dit avec un clin d'œil, « Mais vous n'oubliez pas les droits des hommes, hein, j'espère. » Alors, je lui ai répondu, « Écoutez, ça fait des millénaires que la société s'occupe des droits des hommes, donc je n'ai pas tellement envie de pleurer pour leur disparition. » Il a ri. Bon, voilà. C'était une blague. Voilà. Bon, j'en viens maintenant au... Pardon ? Oui, j'en viens maintenant aux freins et qui prennent des formes diverses que vous connaissez toutes et tous. Évidemment, il y a le machisme en politique qui s'exprime, ou plutôt qui ne s'exprime pas, parce que ça reste le secret des boys clubs, auxquelles les femmes n'ont pas accès. Ce machisme se transmet de génération en génération mieux que le féminisme. Par exemple, quand vous êtes dans une commission électorale de votre parti, vous n'avez pas droit aux informations. On ne vous dit pas quels ont été les résultats électoraux des années précédentes. Vous êtes obligé d'aller faire le travail de recherche vous-même. Deuxièmement, le détournement des lois. Comment on détourne une loi qui dit qu'il n'y a pas de cumul de têtes de parlementaires avec un exécutif local? Eh bien, on soutient des femmes de paille qui sont des vraies auxiliaires, c'est-à-dire un second moi pour un grand élu, et on place à la tête de l'exécutif cette femme de paille et on reste soi-même parlementaire. Je veux prendre pour exemple le maire du 7e secteur de Marseille, le Front National, le Rassemblement National, Ravier, qui a mis carrément sa nièce à sa place comme maire de secteur. Donc, cette manière de détourner la loi, et en passant par le népotisme qui est extrêmement répandu, moi je parle de Marseille, hein, la femme, la fille, la nièce, la maîtresse, on a connu ça très longtemps, eh bien, sachez que ça s'est exercé aussi au Japon, par exemple, si j'en crois la chercheure que j'ai rencontrée il y a peu de temps. Le détournement et le noyautage des commissions femmes sont aussi une autre manière de mettre en pièce la parité. Et là, je présente mes excuses aux membres des commissions femmes dont j'ai été moi-même. Donc, dans les partis politiques ou autres organisations syndicales. Et là, on voit des femmes que l'on avait connues, vraiment engagées, complètement coincées entre des injonctions paradoxales, entre un conflit de loyauté à l'égard du chef qui les a mises en place, là, et puis leurs convictions féministes. Et c'est encore plus déplaisant quand elles sont gratifiées du bonus d'un mandat ou d'un poste. Après, il y a les stéréotypes sexués qui sont malheureusement partagés par le plus grand nombre et font que les femmes élues sont confinées dans les dossiers du soin, du care, de la petite enfance et des vieilles personnes. On a affaire à une culture sexiste dans notre pays, en France, partagée, encouragée parfois même par des élus et qui vient satisfaire un vieux fond collectif antiféministe et conservateur et qui fonctionne à partir de la dégradation de l'image de la femme. Je vous donne l'exemple d'une commune qui est la petite commune d'Elne dans les Pyrénées-Orientales, où le maire nouvellement nommé en 2014 doit conforter le baptême de nom dans un quartier. Toutes les rues avaient porté des noms de femmes célèbres. Donc vous trouviez Olympe de Gouges, vous trouviez Mère Teresa, vous trouviez Lucie Aubrac. Alors il a débaptisé toutes ces rues parce que quand même il n'y avait pas de raison de mettre des noms de femmes dans un quartier, et il leur a donné le nom des pics des Pyrénées, et vous trouvez le pic du Ganigou, etc. Alors oui, je vois que j'ai pris plus que mon temps et je vous prie de m'en excuser. Je vais donc aller plus vite, même peut-être dans le débat, on aura l'occasion d'y revenir. Excusez-moi, voilà. Donc, tout de même, peut-être vous dire les grands titres de ce que j'avais jugé bon de vous dire. La première chose, c'est que dans notre mouvement féministe, il y a des grandes absentes, et plus ça va, plus je suis frappée par cette chose-là. Les grandes invisibles, c'est les femmes qui ont entre 25 et 50 ans et qui sont mères de famille, qui travaillent, qui sont mères de famille, qui sont à la maison, qui n'ont absolument pas le temps de militer et que vous ne voyez pas, ou très peu, dans les sphères où s'organise le pouvoir. Et ça, je trouve que c'est un vrai, vrai, vrai souci. Tant qu'elles ne seront pas avec nous, eh bien, il y aura quelque chose qui ne fonctionnera pas. Ensuite, concernant l'organisation des femmes elles-mêmes, on a pointé leur absence de solidarité qui est historique et qui, je pense, est en train de se modifier aujourd'hui parmi les nouvelles générations. On a parlé aussi des violences sexistes, on pourra y revenir tout à l'heure. Bien d'autres signes pourraient être donnés de cet empêchement dont sont victimes les femmes. Et ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est de prendre en compte l'énorme modification de la société, ne serait-ce que si vous regardez le taux de fécondité des femmes, qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse des pays du Maghreb, qu'il s'agisse de l'Italie, de l'Espagne ou d'autres pays. Regardez l'évolution de ces chiffres et l'abaissement de ce seuil, c'est tout à fait intéressant. Ça signifie qu'on a affaire à des générations de femmes qui sont différentes, qui vont être moins coincées. Voilà, alors je vais terminer rapidement et je voudrais terminer en citant quelque chose que je cite souvent en conclusion, et pardon pour celles qui m'ont déjà entendu le dire. Quand j'étais à Kaboul en 2002, dans une conférence internationale des droits des femmes, dans Kaboul qui venait juste d'être libérée, les femmes afghanes nous avaient dit quelque chose que je trouvais tellement fort et tellement touchant. C'était ça. C'était « Toutes les ténèbres du monde ne peuvent souffler la flamme d'une seule petite bougie. » Et je vous prie d'avoir une pensée pour elles, parce qu'elles sont en train de traverser une période là qui est terrible. On ne sait pas quel est le résultat de la présidentielle. Il a encore été reporté d'un mois. Je pense que l'ami afghane qui prendra la parole tout à l'heure nous en parlera. Et ce processus qui est en train de se mettre en place, je ne voudrais pas que ça se joue sur leurs droits, alors qu'elles ont conquis quelque chose qui est tellement fondamental, c'est l'égalité des droits, justement, inscrit dans leur constitution. Je vous remercie.